Voilà, gloire à Dieu. Bonsoir à ce que je n'ai pas salué, qui venait d'arriver. Soyez bienvenus. Amen. Vous savez qu'on a au milieu de nous quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui est fantastique. Je ne parle pas des douze fantastiques, hein, mais lui, il est unique. C'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur. C'est Jésus. Amen. J'aimerais ouvrir avec vous le psaume 46, faire une lecture. Au verset 2, voilà, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire, des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Et on va finir au verset 11. Arrêtez. Arrêtez de vous agiter. Arrêtez de vous inquiéter. On va le voir ensemble. Arrêtez et reconnaissez ou sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Amen. Arrêtez-vous, hein, c'est ce que nous dit ce texte. Alors s'arrêter, cela veut dire prendre le temps de marquer un arrêt. Dans la vie, je dis souvent, nous sommes invités à nous arrêter. Qu'on le veuille ou pas, il y a des arrêts impératifs, hein. Je pense par exemple au feu tricolore. Quand la couleur est verte, allez-y. Quand elle est orange, ralentissez si vous pouvez, arrêtez-vous. Parce qu'ensuite, c'est rouge. Et là, vous êtes bien obligé de vous arrêter parce que si vous passez, vous risquez de vous retrouver avec un agent de police ou un gendarme qui était là sur le côté, qui vous surveillait et qui va vous siffler, vous arrêter et vous allez non seulement perdre des sous, mais perdre des points. Et si vous en restez plus guère, vous risquez de repartir sans points. Voilà. Alors, bien sûr, c'est des arrêts impératifs. Dans le texte que nous venons de lire, il y a cet impératif de Dieu, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Ça, c'est une interpellation qui nous vient directement de Dieu. Dieu, dans la vie, nous demande à des moments de nous arrêter, de bien réfléchir, de méditer sur ce qui nous arrive. Il y a certaines circonstances qui ne sont pas anodines, parce que Dieu les permet, ou même quelquefois Dieu les provoque, parce que ce qu'il veut, c'est que nous puissions jouir de la vie. Et il y a des lieux dans lesquels nous sommes allés, ou des choses que nous avons pratiquées qui n'étaient pas bonnes pour nous. Et à partir de là, Dieu a dit stop. Un jour, je me retrouvais à la caserne des pompiers à Carpentras et je suis tombé sur des bandes dessinées pour adultes. Et dedans, il y avait un message, mais un message qui était destructif, un message diabolique. Et j'ai entendu cette voix, mais d'une manière audible. Il n'y avait personne à l'étage où j'étais. Et j'entends cette voix qui me dit, tu les lis, c'est pas bien, mais c'est les derniers. J'ouvre la porte, je regardais qu'il y avait quelqu'un dans le couloir. Il n'y avait personne dans le couloir. Donc, je dis, c'est Dieu qui m'a quelque part arrêté en me disant, c'est les derniers, c'est fini. Après, tu n'y toucheras plus. Et bien sûr, après, je me suis converti. Et j'ai fait en sorte que ces choses-là ne soient plus à ma portée. Mais voyez un petit peu, donc, à des moments, Dieu nous dit, arrête. Faut que tu t'arrêtes. Et maintenant que tu reconnaisses aussi qui je suis, parce que ça, c'est important. Alors, nous sommes tous engagés sur des chemins différents. C'est les chemins de notre vie. Il est particulier à chacun, bien sûr. Hein. Hélène est différente de mon cheminement, hein, de mon chemin, et bien d'autres, bien sûr. Hein. Alors, nous avons tous un parcours différent. Nous avons tous également des expériences particulières, personnelles. Nous avons tous des vies bien particulières marquées justement par ces expériences. Il y en a des bonnes, mais il y en a des mauvaises. Néanmoins, elles sont là. c'est notre vécu. On va voir que c'est bon que ça devienne du passé, hein, que l'on puisse détourner nos regards et notre cheminement de ces choses-là. Alors peut-être que notre présent aussi nous invite à ce qu'on appelle à l'arrêt pour réfléchir. Un homme a été poussé dans le désert pour bien réfléchir à sa destinée. Il en parle. Peut-être également que l'avenir, source de soucis, de craintes et d'angoisses, nous amène bien sûr à nous arrêter. La fatigue est là, on est désespéré. Comme m'ont dit certains, ils le disent encore bien sûr, « Je suis au bout du rouleau, pasteur. Je suis au bout du rouleau. Je n'y arrive plus. » Tout au long de la Bible, Dieu ne se lasse pas de nous dire « Arrêtez-vous. » Arrêtez-vous, mais allez plus loin. Reconnaissez ou sachez que je suis Dieu. C'est-à-dire que je suis au-dessus de tout. Nous nous débattons avec les problèmes de la vie et les circonstances difficiles. Nous sommes tout seuls, nous combattons, nous n'y arrivons pas et nous finissons par craquer. La dépression nerveuse, comment dire, le blackout, je ne sais pas comment on appelle ça. Le burn-out, voilà. Il n'y a plus de son ? C'est pas grave. Bon. Alors, donc, je dis que il arrive des moments où tout craque autour de nous. Et nous nous écroulons. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas des surhommes. Et c'est là qu'il est important de bien réfléchir à ce que nous dit le texte. Arrête-toi, réfléchis bien, fais le constat ou le bilan, et puis reconnais une chose. C'est que toi, tu n'y arrives pas. Mais moi, je suis au-dessus de toi. Et moi, je peux répondre. Et quand je dis que tout au long de la Bible, Dieu ne s'arrête pas de le dire, d'inviter des hommes et des femmes tout simplement à prendre le temps, à bien réfléchir, à bien se positionner vis-à-vis de lui, vis-à-vis des circonstances. Eh bien, nous voyons quoi là ? Nous voyons toute la patience et l'amour de Dieu à notre égard. Parce que bien souvent, nous avons tourné le dos à la personne de Dieu, nous avons tourné le dos au conseil de Dieu. Dieu l'éloigne. Moi, je suis là, je suis dans les problèmes. Qu'est-ce qu'il en sait de ce que je vis ? Vous voyez, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et moi, je suis tout seul. Alors oui, s'il y en a un qui est bien au parfum de ce qui m'arrive, c'est moi. Alors je vais essayer d'y arriver. Et je tourne le dos. Et j'essaie d'y arriver par moi-même. Je fais également allusion, il y a quelques instants, à ces chemins de la vie sur lesquels eh bien, nous sommes les uns et les autres engagés. Permettez-moi d'évoquer quelques-uns de ces chemins. Et je suis persuadé que vous ne manquerez pas de vous reconnaître dans l'un de ces chemins. Tout d'abord, je pense tout simplement à ce chemin que malheureusement, eh bien, je dirais, emprunte beaucoup trop de personnes. C'est le chemin de la douleur, le chemin de la souffrance. Chemin terrible. La souffrance sous toutes ses formes. On n'est pas préparé à cela, mais elle vient, elle nous frappe, elle nous agresse. Il y a le deuil, la maladie, l'angoisse également. Nous, quelque part, la première réaction, c'est de se révolter contre ces choses. Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Mais on se révolte, on va le voir, contre Dieu également, contre la société, contre tout ce qui est autour de nous. Et bien souvent, on fait des dégâts, on fait du mal aux autres, bien sûr. Mais la question est, où va me conduire cette révolte qui est en moi ? Parce que souvent, la révolte, quand elle fait des dégâts, c'est-à-dire qu'elle nous laisse seuls. Encore plus seuls qu'avant que nous nous révoltions. Alors, des fois, nous ne supportons pas de souffrir et pour autant, eh bien, la souffrance est quotidienne pour beaucoup. Elle fait partie, comme me l'a dit un jour un homme, elle fait partie de ma vie. Elle fait partie de notre vie. Alors, Dieu dit, arrête et reconnais que je suis Dieu. Parce que, oui, même là, sur ce chemin de souffrance, eh bien, Dieu se trouve. Et je dirais, qu'est-ce que Dieu connaît à la souffrance après tout ? Parce que lui, Dieu, lui. Moi, je suis homme, je suis individu. Et souvent, eh bien, avec une multitude, eh bien, oui, nous levons le poing pour accuser Dieu de tout ce qui nous arrive, bien sûr. Quelquefois, on l'a bien cherché, hein, mais la plupart du temps, on ne l'a pas cherché du tout. Néanmoins, la souffrance est là, bien sûr. Hein. Alors, toute cette douleur, elle nous frappe, elle nous atteint. Même les plus durs, les plus solides, les plus costauds, ils finissent par plier le genou. Alors, qu'est-ce que Dieu connaît de la souffrance des hommes ? Pourrions penser qu'il est justement bien loin, si loin de la réalité, qu'il ne s'en soucie pas. Et oui. Et finalement, s'il y a un Dieu, eh bien, il est au-dessus de nous, bien au-dessus de nous, bien loin de nous. Et certainement qu'il ne comprend pas ce qui nous arrive. Il ne peut pas comprendre ce qui m'atteint. Il n'est même pas capable de toucher du doigt la réalité de ce chemin sur lequel je suis, le chemin de la douleur, le chemin de la souffrance. Eh bien, sachez cependant que Dieu comprend. Sachez que Dieu est attentif lorsque justement nous passons par des temps difficiles. Et je vais même aller plus loin, au risque peut-être de paraître provocateur. Sachez que Dieu souffre justement comme nous, nous souffrons. Dieu souffre. Eh oui. La Bible nous dit dans un texte extrêmement pertinent et je dirais particulier des Écritures, c'est dans le livre d'Ésaïe, le prophète, environ 8 siècles avant la venue de Jésus, il annonce le Christ. Et qu'est-ce qu'il dit ? Du Messie qui va venir, de l'envoyé de Dieu qui va venir tout simplement au milieu des hommes. Eh bien, il dit qu'il va être méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Voilà la description prophétique des centaines d'années avant la venue de Jésus, le Christ, le Messie, faite par ce prophète, le prophète de Dieu, un homme de Dieu, Ésaïe. L'évangile de Luc nous relate que Jésus lui-même se présente comme celui qui a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et des cœurs brisés, il y en a dans la société d'aujourd'hui. Il y en a de plus en plus. Moi, je me souviens, j'ai vécu des choses difficiles. De par mon métier, je me suis retrouvé dans des situations très périlleuses. Mais je n'ai jamais, à cette époque-là, on ne le faisait pas, je n'ai jamais été débriefé ensuite par un psychologue. Or, ce que je vois, ce que j'entends aujourd'hui dans chaque intervention particulière, eh bien, on fait appel à une cellule avec des psychologues, justement, pour aider parce que nous sommes tellement fragiles. Moi, ces choses-là, je ne les ai pas vécues. Pourtant, j'ai vécu des choses difficiles. Hein. Quand vous vous trouvez projeté par une explosion, que vous êtes décollé du sol et rejeté en arrière, quand vous vous retrouvez avec tout un appartement qui est embrasé, vous êtes au milieu dans le couloir, vous n'avez pas d'appareil respiratoire parce que celui qui l'avait, il a été obligé de sortir et vous êtes là au milieu avec un jeune qui était là pour apprendre. Et je vous dis, j'ai vécu des situations difficiles. Mais c'est vrai que l'homme, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus fragile. On est de plus en plus fragile. La société vit comme cela. Alors l'évangile de Luc nous relate ceci, que Jésus se présente lui-même comme celui qui est capable de guérir. Et dans ce monde, eh bien, il y a tellement de cœurs brisés, ne serait-ce qu'à cause de la douleur, à cause de la souffrance. Eh bien, Jésus est celui qui peut nous conduire, je dirais, dans notre chemin de souffrance, nous assister, nous être là tout simplement, dans ce chemin de douleur, parce que lui-même, eh bien, il a connu la douleur suprême. La Bible me dit qu'il s'est chargé de mes péchés. La Bible me dit que lui, le juste, a été accusé à cause des injustes. Et la Bible me dit qu'il n'a pas ouvert la bouche, mais qu'il est resté muet, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Il n'a rien dit. Le second chemin que nous empruntons, c'est le chemin de la peur. Vivre dans la crainte. Vivre dans l'appréhension, je dirais, d'une manière continuelle. C'est un mal diffus. C'est une souffrance terrible. Et il y a autour de nous tellement de choses qui nous amènent à redouter l'avenir. Il y a aujourd'hui une recrudescence des guerres. On le voit autour de nous. Il y a également de plus en plus de pollution. Il y a des tremblements de terre, il y a des volcans qui se réveillent, comme en Islande, bientôt il y en a un qui va surgir. Il y a des cataclysmes, des maladies. Et puis des maladies dont on disait, mais il n'y en aura plus. C'est fini, on l'a éradiqué. Je pense, ne serait-ce qu'en midi, vous en parlez encore, la grippe aviaire, elle, par exemple, elle était très loin de nous, elle était en Asie. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Depuis quelques années, elle est là en Europe. Je dirais même qu'elle est là en France. Et si elle continue à faire des dégâts, on n'aura plus de foie gras pour les fêtes. Ben oui, parce que, eh bien, il faut détruire le troupeau, quoi. Il faut l'exterminer, le faire disparaître. Parce que, bien sûr, eh oui. Alors, nous avons peur quand? Nous avons peur en voiture. Non? Nous avons peur en avion. Nous avons peur dans le train. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On a peur des autres. Quelquefois même, on a peur de soi-même. Parce que quand on se regarde dans le miroir, on se dit, mais ce n'est pas possible que moi je sois capable de faire ça ou de penser cela. Je me fais peur. Je me fais peur. Eh oui, eh oui. Et là encore, Dieu nous dit ceci. Arrêtez. Sachez ou reconnaissez que je suis Dieu. Parce que là où vous perdez les pédales, là où justement eh bien, vous êtes obligé de vous replier ou de vous renfermer, eh bien, sachez que moi je suis Dieu, je peux vous aider, vous secourir à vaincre vos peurs. Et voyez-vous, avec le regard et la vision de la foi, eh bien, nous pouvons dire tout simplement que Dieu domine toutes choses. Amen. C'est lui qui nous a créés. Dites donc. Il nous a créés. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il sait comment nous fonctionnons? Il sait très bien comment nous fonctionnons. C'est lui qui nous a fait. Et ce qu'il désire également, c'est quelque part nous prendre par la main. Quand on est petit, on aime bien sentir la main de papa ou maman, hein, surtout quand c'est noir, quand l'obscurité est là. Eh oui, on dit c'est rassurant. Eh bien, c'est un petit peu ce que Dieu veut faire. Nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans l'obscurité, ces choses-là nous envahissent, c'est terrible, on ne voit plus le jour, on n'ose plus espérer. Mais Dieu nous dit, moi je suis là, arrête-toi, prends ma main, laisse-moi te conduire, laisse-moi être auprès de toi. Jésus lui-même va dire à ses disciples qui étaient en épouvante, qui étaient pris par le doute et les tourments, il dit dans Jean chapitre 14, verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le troisième chemin sur lequel peut-être quelqu'un est engagé, et ce chemin-là, je le souhaite de tout cœur à tout le monde, c'est celui du succès. Ça va? Eh oui. Tout va bien. C'est la santé, c'est la réussite au niveau social, professionnel, familial. Et bien sûr, en m'écoutant, vous vous dites, mais moi, je ne suis pas concerné par tout cela. Eh oui. Prenez l'existence du bon côté, vous ne manquez de rien. Vous êtes justement ce que l'on appelle un bon vivant. Vous avez raison de profiter de l'existence. Est-ce que Dieu ne nous a pas créés pour jouir du bonheur? Non? Pas sûr. Alors Jésus nous rapporte la parabole dite du riche insensé. Et c'est justement quelqu'un à qui tout a réussi. Réussite dans les affaires, réussite sur le plan familial, semble-t-il. Et pourtant, Jésus va nous poser là une scène extraordinaire. Il va nous dire que cet homme qui disait à son âme, « Mon âme, tu as beaucoup travaillé, tu as des biens en réserve, maintenant mange, repose-toi, profite de la vie. » Et Jésus va nous dire que cet homme, c'est un insensé. Vous rendez compte? C'est un insensé. Parce qu'il va lui dire, cette nuit même, ton âme va t'être redemandée. Est-ce que tu as mis en réserve? Pour qui cela sera-t-il? Qui c'est qui va en profiter? Pas toi. Waouh. Alors Jésus nous dit qu'il en sera de même également pour quiconque est riche pour lui-même, mais justement, il est bien pauvre pour Dieu. Et oui, pauvre pour les choses les plus importantes, pour ce qu'on appelle les éléments spirituels. Pauvre quant à son salut, quant à l'éternité. Alors là aussi, si vous êtes sur le chemin du succès, gloire à Dieu, hein, arrêtez-vous et considérez, sachez qu'il est Dieu, qu'il est au-dessus de tout. Jésus lui-même nous dira dans Matthieu 8, 36, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Eh oui. Alors certains peuvent penser finalement, je ne suis pas concerné par toutes ces choses, je ne suis pas sur le chemin de la douleur, je ne suis pas sur le chemin de la peur, et puis je ne connais pas beaucoup le succès. Ça me suffit, je m'en contente. Alors avant de conclure, je vais parler d'un quatrième et dernier chemin. Je pense au chemin sur lequel nous marchons tous au commencement. Je dis oui, tous, sans exception. Alors vous dites peut-être, mais quel est ce chemin ? Eh bien, la Bible nous dit que c'est le chemin où marchent tous les hommes, toutes les femmes, sans Dieu. Un chemin large, spacieux, qui nous mène tout simplement très, très loin de Dieu. Et là, sur ce chemin, on appelle le chemin de la vie sans Dieu, d'autres l'appellent le chemin du péché, c'est ainsi que le qualifie la parole de Dieu, la Bible. Eh bien, si vous êtes sur ce chemin, nous l'avons tous été, pour notre part, alors là aussi, Dieu intervient. La parole de Dieu intervient pour nous arrêter, pour nous interpeller, pour nous amener à bien réfléchir. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et Jésus lui-même a dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire que Dieu nous a donné un moyen extraordinaire de nous approcher de lui. Ce moyen, eh bien, c'est son Fils, c'est Jésus, c'est notre Sauveur, c'est le Fils de Dieu. Et il est venu sur la terre des hommes, lui qui était le plus riche que le monde ait connu. Il est venu à notre contact. Il est venu, je dirais, pour établir une relation avec nous. Il est venu justement pour que nous puissions voir au travers de lui ce qui nous manque, ce qui nous fait défaut. La Bible l'appelle le Tout-Puissant de Dieu. Amen. Il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. La Bible nous dit que Dieu s'est identifié à nous par ce moyen. Il s'est fait homme. Il ne nous a pas envoyé une sorte d'extraterrestre dans un vaisseau intersidéral. Non, non. Il ne nous a pas envoyé un ange non plus pour nous parler de cela, pour nous conduire sur le chemin de la vie. Non, non. Il nous a envoyé son Fils. Il est venu sous forme humaine afin que nous comprenions qui il est et que nous comprenions également ce qu'il est venu faire ici-bas. La Bible me dit qu'il est venu pour me sauver, moi, Bernard Villa. La Bible me dit qu'il est mort à cause de moi, moi, Bernard Villa. Il est venu tout simplement pour m'amener à la réconciliation avec le Père Céleste, avec le Créateur, ce Dieu d'amour. Et parce que justement Dieu est amour et que Dieu nous aime, il a offert en sacrifice son Fils, ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Jésus, sa vie, on ne l'a pas pris, on ne l'a pas dérobé, mais il l'a donné de lui-même. Il a choisi, lui, de venir et de verser son sang afin que la peine de notre péché, le poids de notre péché soit effacé. Ce passif qui pèse, ce qui pèse dans notre conscience, dans notre cœur, dans notre âme, qui quelquefois nous empêche de dormir. Eh bien, la Bible me dit que Jésus est venu pour extraire ces choses de nous. Bien sûr, il faut que nous reconnaissions quelque chose. C'est ce que dira un homme, un jour j'ai péché. Il dira, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il dira cela à son père. Mais il faisait référence à Dieu. Il va se repentir, bien sûr. Parce que quand on reconnaît ce qu'on a fait, et je suis passé par là, et la plupart d'entre nous sommes passés par là, nous avons reconnu nos fautes. Nous avons reconnu notre vie sans Dieu, qui est une vie, excusez-moi, dont on rougit après. Eh bien, la Bible dit que quand nous comprenons ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli sur le bois de la croix, quand nous nous arrêtons et que nous réfléchissons à ces choses-là, comme Dieu nous y invite ce soir, eh bien, nous pouvons ensuite emprunter le chemin. Un chemin qui va nous amener à nous élever. Un chemin qui va nous amener vers le bonheur. Un chemin qui va nous amener vers la guérison intérieure. Là, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Parce que c'est ce que fait Jésus. Il nous visite intérieurement. Ce que la main humaine ne peut pas faire, ce que la médecine ne peut pas faire, Jésus est capable de le faire. Faire de toi une nouvelle créature. Faire de toi un homme ou une femme nouvelle. Amen. Alors, comment parvenir à ce chemin? Eh bien, tout simplement en acceptant, avec vérité, par la foi, eh bien, ce que nous disent la Bible et les évangiles. La Bible dit que Jésus est venu sur la terre pour pouvoir nous conduire sur le chemin de la vie éternelle. Voilà pourquoi est venu Jésus. Et pour cela, lui, il a dû emprunter un chemin particulier. C'est le chemin de la croix, c'est le chemin de la mort. Il a dû subir la mort sur le bois de la croix, lui qui est éternel, puisqu'il est Dieu. La Bible nous dit qu'il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Et j'ai compris ces choses et j'ai pleuré. Je me suis repenti de mes péchés, j'ai demandé pardon à Dieu. Il a pris sur lui la malédiction qui nous revenait pour que nous soyons réconciliés avec le Père Céleste, pour renverser ce mur d'inimitié qu'il y a entre Dieu et nous, pour combler cet abîme, ce fossé qui est là, et nous conduire tout simplement au travers de ce pont que représente la croix, eh bien, nous puissions aller vers la personne de Dieu, trouver une relation avec lui. La Bible nous dit aussi, ce n'est pas la moindre des choses, mais au contraire, c'est la plus importante. Oui, Jésus est mort sur le bois de la croix. Mais oui, Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il a triomphé de la mort. Il est sorti du tombeau. Et aujourd'hui, je dirais qu'il t'attend, mon ami. Il t'attend tout simplement. Eh bien, sur le chemin du salut pour te conduire vers l'éternité. Il t'attend, mon ami. Moi, je l'ai compris un jour. Et ce jour-là, j'ai réalisé quel amour Dieu avait pour moi. J'ai souvent levé le poing contre lui. J'ai souvent tourné en dérision les choses de Dieu. J'ai été méprisant vis-à-vis de ce que je rencontrais qui appartenait à Jésus, qui s'était converti. Et je ne savais pas qu'il priait pour moi. Et c'est certainement ce qui a amené tout simplement eh bien, mon cœur à être travaillé. Parce que c'est cela, mes amis. Il priait pour que je sois sauvé. Alors, je termine avec cette question. Je ne peux pas faire autrement que de la poser. Sur quel chemin êtes-vous ce soir? Sur quel chemin êtes-vous? Réfléchissez bien. Arrêtez, hein, comme dit Dieu. Et puis, sachez une chose, c'est que moi, Dieu, je suis là. J'ai le regard sur vous. Je te vois. Je sais ce que tu vis. C'est-à-dire qu'il nous faut prendre le temps de nous arrêter, de nous tourner vers Dieu, de l'écouter, aussi de recevoir ses paroles. Vous savez, Dieu n'est pas comme nous les hommes. Vous savez, les hommes, c'est vite fait. Hein. Je t'aime, moi non plus. Vous voyez? Je t'aime, mais demain, je risque de te détester. Je risque de te haïr. Tandis que Dieu, lui, nous aime. Il a toujours des paroles apaisantes, des paroles de consolation, des paroles d'espoir, des paroles qui, à elles seules, sont capables de susciter en nous des choses extraordinaires, insoupçonnées. Je dirais que le principal élément de cette parole, ce qu'elle peut susciter en nous, dans notre intelligence, dans notre cœur, c'est l'espérance au travers de la foi, mes amis. Amen. L'espérance au travers de la foi. Certaines personnes disent, je suis au bout du rouleau, plus d'espérance. Je ne m'en sortirai jamais. Il suffit d'une rencontre avec le Créateur, d'une rencontre avec le Sauveur, avec le Fils de Dieu, avec Jésus, pour que tout change. Amen. Ça s'appelle la conversion. Je m'en allais vers l'abîme. J'allais vers la perdition éternelle. Et j'ai fait un demi-tour. C'est ça, la conversion. Et je vais maintenant dans une autre direction. Celle qui m'amène à m'élever. Celle qui me donne du courage. Celle qui me donne l'espérance. Ce n'est pas un vague espoir, c'est l'espérance. Je suis sauvé. J'ai été pardonné. Un jour, un homme me le disait, on distribuait des prospectus dans le 04, dans la ville de Digne, faisait de l'évangélisation. Et puis cet homme, il me dit, à un moment donné, parce que je lui parlais du salut, je lui parlais de l'amour de Dieu, je lui dis, à un moment donné, j'arrête tout, parce que lui, il commençait à me parler de choses, autre chose, autre chose, autre chose. Je lui dis, vous savez, le plus important, c'est savoir qu'on est sauvé. Il me dit, mais qui peut le savoir? Et je lui ai répondu, moi. Moi, je le sais, parce que la Bible me l'affirme. Je me suis repenti de mes péchés. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Et je marche en conformité avec sa parole. J'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime le royaume de Dieu. Et ici-bas, je vis pour lui. Oh, il a tourné le dos, il est parti en courant. Il veut dire, j'étais illuminé à ce moment-là. Non, illuminé, ça veut dire avoir la lumière. Alléluia. Oui, mais j'ai la lumière de la vie. Et c'est ce qu'il faut à ta vie que tu puisses réaliser. Alors je vous souhaite à tous, si ce n'est pas encore fait, de vous engager sur ce chemin, le chemin de la vie, le chemin du salut. Il n'y en a qu'un. C'est celui qui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu veux venir au Père? C'est par lui. C'est par lui que tu vas trouver la vie, c'est par lui que tu vas pouvoir tout simplement vivre une vie magnifique. La vie est belle avec Jésus. Amen. Elle n'est pas sans difficulté. Mais écoutez, avec ce que représente Jésus, cet ami extraordinaire, je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul. Il est là. Amen. Et je sais que quand il m'arrive une difficulté, Jésus, viens avec moi. Amen. Une sœur qui sortait des témoins de Jéhovah, elle raconte son témoignage. Alors, quand son témoignage, elle le dit, j'ai tellement vécu dans l'erreur, j'ai tellement été trompé, j'ai tellement accepté de mensonges que maintenant, je ne veux plus ces choses. Alors, quand ces choses arrivent, que ça frappe à la porte de mon cœur, je dis, Jésus va ouvrir. Et quand ça ne vient pas de lui, quand ce n'est pas des choses bonnes pour moi, ça part. Parce qu'à la vue de la lumière que représente Jésus, les ténèbres fuient. On fait la part des choses. On se situe. On fait des bons choix. Et on est heureux. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, tu nous as encore donné rendez-vous ce soir pour nous parler, tout simplement pour nous faire du bien, pour nous amener à bien réfléchir sur notre existence. Quand tu nous dis de nous arrêter, c'est le moment. Et je crois que ce soir, quelqu'un a pris le moment de s'arrêter. S'arrêter pour un temps, s'arrêter pour un moment et réfléchir à la lumière de ta parole. Je te demande de travailler ce cœur, cette âme. Je te demande de visiter peut-être quelqu'un qui passe par des temps difficiles et qui dit, Seigneur, je sais que tu existes et j'ai besoin que tu me guérisses. Je veux compter sur toi. Alors Seigneur, réponds-moi. Seigneur, je crois que ce soir tu veux répondre et guérir dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, dans le cœur, Seigneur. Tu es ce divin médecin sur lequel nous pouvons compter. Visite, Seigneur, chacun, chacune ce soir. Merci de prendre soin de celui ou celle qui s'approche, tout simplement, qui a des balbutiements de la foi, Seigneur, tout simplement. Merci de l'aider à consolider sa foi, à vivre une expérience personnelle avec toi forte. Merci, Jésus, à toute chose que ton nom soit élevé et béni, Seigneur. Amen.